Armand de l'homme d'Ars, dit le baron de Lahontan. Dialogue ou entretien entre un sauvage et le baron de Lahontan. 1703. Des lois. Lahontan. Eh bien, mon ami, as-tu entendu le jésuite? Il t'a parlé clair, il t'a bien mieux expliqué les choses que moi. Tu vois bien qu'il y a de la différence de ses raisonnements aux miens. Nous autres, gens de guerre, ne savons que superficiellement notre religion, qui est pourtant une science que nous devrions savoir le mieux. Mais les jésuites la possèdent à tel point qu'ils ne manquent jamais de convaincre les peuples de la terre les plus incrédules et les plus obstinés. Adario. À te parler franchement, mon cher frère, je n'ai pu concevoir quasi rien de ce qu'il m'a dit, et je suis fort trompé s'il l'a compris lui-même. Il m'a dit 100 fois les mêmes choses dans ma cabane, et tu as bien pu remarquer que je lui répondis 20 fois hier, que j'avais déjà entendu ses raisonnements à diverses reprises. Ce que je trouve encore de ridicule, c'est qu'il me persécute à tout moment de les expliquer mot pour mot aux gens de ma nation, parce que, dit-il, ayant de l'esprit, je puis trouver des termes assez expressifs dans ma langue pour rendre le sens de ses paroles plus intelligible que lui, à qui le langage huron n'est pas assez bien connu. Tu as bien vu que je lui ai dit qu'il pouvait baptiser tous les enfants qu'il voudrait, quoiqu'il n'ait su me faire entendre ce que c'est que le baptême. Qu'il fasse tout ce qu'il voudra dans mon village, qu'il y fasse des chrétiens, qu'il prêche, qu'il baptise, je ne l'en empêche pas. C'est assez parler de religion. Venons à ce que vous appelez les lois. C'est un mot, comme tu sais, que nous ignorons dans notre langue. Mais j'en connais la force et l'expression par l'explication que tu me donnas l'autre jour avec les exemples que tu ajoutas pour me les faire mieux concevoir. Dis-moi, je te prie, les lois, n'est-ce pas dire les choses justes et raisonnables? Tu dis qu'oui. Eh bien, observer les lois, c'est donc observer les choses justes et raisonnables. Si cela est, il faut que vous preniez ces choses justes et raisonnables dans un autre sens que nous, ou que, si vous les entendez de même, vous ne les suiviez jamais. Lahontan. Vraiment, tu fais là de beaux contes et de belles distinctions. Est-ce que tu n'as pas l'esprit de concevoir depuis 20 ans que ce qui s'appelle raison parmi les Hurons est aussi raison parmi les Français? Il est bien sûr que tout le monde n'observe pas ces lois, car si on les observait, nous n'aurions que faire de châtier personne. Alors ces juges que tu as vus à Paris et à Québec seraient obligés de chercher à vivre par d'autres voies. Mais comme le bien de la société consiste dans la justice et dans l'observance de ces lois, il faut châtier les méchants et récompenser les bons. Sans cela, tout le monde s'égorgerait, on se pillerait, on se diffamerait. En un mot, nous serions les gens du monde les plus malheureux. Adario. Vous l'êtes assez déjà, je ne conçois pas que vous puissiez l'être davantage. Quelle sorte de créatures qui font le bien par force et n'évitent à faire le mal que par la crainte des châtiments? Si je te demandais ce que c'est qu'un homme, tu me répondrais que c'est un Français, et moi je te prouverais que c'est plutôt un castor. Car un homme n'est pas homme à cause qu'il est planté droit sur ses deux pieds, qu'il sait lire et écrire, qu'il aille mille autres industries. J'appelle un homme celui qui a un penchant naturel à faire le bien et qui ne songe jamais à faire du mal. Tu vois bien que nous n'avons point des juges. Pourquoi ? Parce que nous n'avons point de querelles ni de procès. Mais pourquoi n'avons-nous pas de procès ? C'est parce que nous ne voulons point recevoir ni connaître l'argent. Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas admettre cet argent ? C'est parce que nous ne voulons pas de loi, et que depuis que le monde est monde, nos pères ont vécu sans cela. Au reste, il est faux, comme je l'ai déjà dit, que le mot de loi signifie parmi vous les choses justes et raisonnables, puisque les riches s'en moquent et qu'il n'y a que les malheureux qui les suivent. Venons donc à ces lois ou choses raisonnables. Il y a 50 ans que les gouverneurs de Canada prétendent que nous soyons sous les lois de leur grand capitaine. Nous nous contentons de nier notre dépendance de tout autre que du grand esprit. Nous sommes nés libres et frères unis, aussi grands maîtres les uns que les autres, au lieu que vous êtes tous des esclaves d'un seul homme. Si nous ne répondons pas que nous prétendons que tous les Français dépendent de nous, c'est que nous voulons éviter des querelles. Car sur quel droit et sur quelle autorité fondent-ils cette prétention ? Est-ce que nous nous sommes vendus à ce grand capitaine ? Avons-nous été en France vous chercher ? C'est vous qui êtes venu ici nous trouver, qui vous a donné tous les pays que vous habitez. De quel droit les possédez-vous ? Ils appartiennent aux Algonquins depuis toujours. Ma foi, mon cher frère, je te plains dans l'âme, crois-moi. Fais-toi Huron. Car je vois la différence de ma condition à la tienne. Je suis maître de mon corps, je dispose de moi-même, je fais ce que je veux, je suis le premier et le dernier de ma nation, je ne crains personne et ne dépends uniquement que du grand esprit. Au lieu que ton corps et ta vie dépendent de ton grand capitaine, son vice-roi dispose de toi, tu ne fais pas ce que tu veux, tu crains voleurs, faux témoins, assassins, etc. Tu dépends de 1000 gens que les emplois ont mis au-dessus de toi, est-il vrai ou non ? Sont-ce des choses improbables et invisibles ? Ah, mon cher frère, tu vois bien que j'ai raison. Cependant, tu aimes encore mieux être esclave français que libre Huron. Oh, le bel homme qu'un Français avec ses belles lois, qui croyant être bien sage est assurément bien fou, puisqu'il demeure dans l'esclavage et dans la dépendance, pendant que les animaux mêmes, jouissant de cette adorable liberté, ne craignent, comme nous, que des ennemis étrangers. Là, on tend. En vérité, mon ami, tes raisonnements sont aussi sauvages que toi. Je ne conçois pas qu'un homme d'esprit et qui a été en France et à la Nouvelle-Angleterre puisse parler de la sorte. Que te sert-il d'avoir vu nos villes, nos forteresses, nos palais, nos arts, notre industrie et nos plaisirs ? Et quand tu parles de lois sévères, d'esclavage et de 1000 autres sottises, il est sûr que tu prêches contre ton sentiment. Il te fait beau voir me citer la félicité des Hurons, d'un tas de gens qui ne font que boire, manger, dormir, chasser et pêcher, qui n'ont aucune commodité de la vie, qui font 400 lieues à pied pour aller assommer 4 Iroquois. En un mot, des hommes qui n'en ont que la figure, au lieu que nous avons nos aises, nos commodités et 1000 plaisirs qui font trouver les moments de la vie supportables. Il ne faut qu'être honnête homme et ne faire de mal à personne pour n'être pas exposé à ces lois, qui ne sont sévères qu'envers les scélérats et les méchants. Abario. Vraiment, mon cher frère, tu aurais beau être honnête homme, si 2 faux témoins avaient juré ta perte, tu verrais bien si les lois sont sévères ou non. Est-ce que les coureurs de bois ne m'ont pas cité 20 exemples de gens innocents que vos lois ont fait mourir cruellement et dont on n'a reconnu l'innocence qu'après leur mort ? Je ne sais pas si cela est vrai, mais je vois bien que cela peut être. Ne m'ont-ils pas dit encore, quoique je l'eusse oui compté en France, qu'on fait souffrir des tourments épouvantables à de pauvres innocents pour leur faire avouer par la violence des tortures tout le mal qu'on veut qu'ils aient fait, et 10 fois davantage. Quelle tyrannie exécrable! Cependant, les Français prétendent être des hommes. Les hommes, les femmes ne sont pas plus exemptes de cette horrible cruauté, et les uns et les autres aiment mieux mourir 1 fois que 50. Ils ont raison que si, par une force de courage extraordinaire, ils peuvent souffrir ces tourments, sans avouer ce crime qu'ils n'ont pas commis, quelle santé et quelle vie leur en reste-t-il? Non, non, non. Mon cher frère, les diables noirs dont les jésuites nous parlent tant ne sont pas tant dans le pays où les âmes brûlent. Ils sont à Québec et en France, avec les lois, les faux témoins, les commodités de la vie, les villes, les forteresses et les plaisirs dont tu me viens de parler. Lahontan. Les coureurs des bois et les autres qui t'ont fait de semblables contes dans ce... Les coureurs de bois et les autres qui t'ont fait de semblables contes, sans te raconter sur cela ce qu'ils ne connaissaient pas, sont des sots qui feraient mieux de se taire. Je veux t'expliquer l'affaire comme elle est. Supposons 2 faux témoins qui déposent contre un homme. On les met d'abord en 2 chambres séparées où ils ne peuvent ni se voir ni se parler. On les interroge ensuite diverses fois, l'un après l'autre, sur les mêmes déclarations qu'ils font contre l'accusé. Les juges ont tant de conscience qu'il emploie toute l'industrie possible pour découvrir si l'un des 2, ou tous les 2 ensemble, ne se coupe point. Si, par hasard, on découvre de la fausseté dans leur témoignage, ce qui est aisé à voir, on les fait mourir sans rémission. Mais s'il paraît qu'ils ne se contredisent en rien, on les présente devant l'accusé pour savoir s'il ne les récuse pas et s'il se tient à leur conscience. S'il dit que oui, qu'ensuite ces témoins jurent par le grand Dieu qu'ils ont vu tuer, violer, piller, etc., les juges le condamnent à mort. À l'égard de la torture, elle ne se donne que quand il ne se trouve qu'un seul témoin, parce qu'il ne suffit pas, les lois voulant que 2 hommes soient une preuve suffisante et qu'un seul homme soit une demi-preuve. Mais il faut que tu remarques que les juges prennent toute la précaution imaginable, de peur de rendre d'injustes jugements. À Dario. Je suis aussi savant que je l'étais, car au bout du compte, 2 faux témoins s'entendent bien avant que de se présenter, et la torture ne se donne pas moins par la déclaration d'un scélérat que par celle d'un honnête homme, qui, selon moi, cesserait de l'être par son témoignage, quoiqu'il eût vu le crime. Ah! Les bonnes gens que les Français, qui, bien loin de se sauver la vie les uns les autres, comme frères, le pouvant faire, ne le font pas. Mais dis-moi, que penses-tu de ces juges? Est-il vrai qu'il y en ait de si ignorants comme on dit, et d'autres si méchants que, pour un ami, pour une courtisane, pour un grand seigneur ou pour de l'argent, ils jugent injustement contre leur conscience? Je te vois déjà prêt de dire que cela est faux, que les lois sont des choses justes et raisonnables. Cependant, je sais que cela est aussi vrai que nous sommes ici, car celui qui a raison de demander son bien à un autre qui le possède injustement fait voir clair comme le jour la vérité de sa cause, n'attrape rien du tout si ce seigneur, cette courtisane, cet ami et cet argent parle pour sa partie aux juges qui doivent décider de l'affaire. Ah, vive les Hurons, qui sans loi, sans prison et sans torture passent la vie dans la douceur, dans la tranquillité et jouissent d'un bonheur inconnu aux Français. Nous vivons simplement sous les lois de l'instinct et de la conduite innocente que la nature sage nous a imprimées dès le berceau. Nous sommes tous d'accord et conformes en volonté, opinion et sentiment. Ainsi, nous passons la vie dans une si parfaite intelligence qu'on ne voit parmi nous ni procès, ni disputes, ni chicanes. Ah, malheureux, que vous êtes à plaindre d'être exposés à des lois auxquelles vos juges ignorants, injustes et vicieux contreviennent autant par leur conduite particulière qu'en l'administration de leurs charges. Ce sont là ces inéquitables juges qui manquent de droiture, qui ne rapportent leur emploi qu'à leurs intérêts, qui n'ont en vue que de s'enrichir, qui ne sont accessibles qu'aux démons de l'argent, qui n'administrent la justice que par un principe d'avarice ou par passion, qui, autorisant le crime, exterminent la justice et la bonne foi pour donner cours à la tromperie, à la chicane, à la longueur des procès, à l'abus et à la violation de serments et à une infinité d'autres désordres. Voilà ce que sont ces grands souteneurs des belles lois de la nation française.
Là, on t'en. Je t'ai déjà dit qu'il ne faut pas croire tout ce que les sottes gens disent. Tu t'amuses à des ignorants qui n'ont pas la teinture du sens commun et qui te débitent des mensonges pour des vérités. Ces mauvais juges dont ils t'ont parlé sont aussi rares que le castor blanc, car on n'en trouverait peut-être pas quatre dans toute la France. Ce sont des gens qui aiment la vertu et qui ont une âme à sauver, comme toi et moi, qui, en qualité de personne publique, ont à répondre devant un juge qui n'a point d'égard à l'apparence des personnes et devant lequel le plus grand des monarques n'est pas plus que le moindre des esclaves. Il n'y en a presque point qui n'aime pas mieux mourir que de blesser sa conscience et de violer les lois. L'argent est de la boue pour eux. Les femmes les échauffent moins que la glace. Les amis et les grands seigneurs ont moins de pouvoir sur leur esprit que les vagues contre les rochers. Ils corrigent le libertinage, ils réforment les abus et ils rendent la justice à ceux qui plaident sans qu'aucun intérêt s'en mêle. Pour moi, j'ai perdu tout mon bien en perdant 3 ou 4 procès à Paris. Mais je serais bien fâché de croire qu'ils les ont mal jugés, quoique mes partis, avec de très mauvaises causes, ne manquaient d'argent ni d'amis. Ce sont les lois qui m'ont jugé, et les lois sont justes et raisonnables. Je croyais avoir raison parce que je ne les avais pas bien étudiées.
À Dario. Je t'avoue que je ne conçois rien à ce que tu me dis. Car enfin, je sais le contraire et ceux qui m'ont parlé des vices de ces juges sont assurément des gens d'esprit et d'honneur. Mais quand personne ne m'en aurait informé, je ne suis pas si grossier que je ne vois moi-même l'injustice des lois et des juges. Écoute un peu, mon cher frère. Allant un jour de Paris à Versailles, je vis à moitié chemin, un paysan qu'on allait fouetter pour avoir pris des perdrix et des lièvres à des lacets. J'en vis un autre, entre La Rochelle et Paris, qu'on condamna aux galères, parce qu'on le trouva saisi d'un petit sac de sel. Ces deux misérables hommes furent châtiés par ces injustes lois pour vouloir faire subsister leur pauvre famille, pendant qu'un million de femmes font des enfants en l'absence de leur mari, que des médecins font mourir les 3/4 des hommes et que les joueurs mettent leur famille à la mendicité en perdant tout ce qu'ils ont au monde, sans être châtiés. Où sont donc ces lois justes et raisonnables? Où sont ces juges qui ont une âme à garder comme toi et moi? Après cela, tu oses encore dire que les Hurons sont des bêtes, vraiment? Ce serait quelque chose de beau si nous allions châtier un de nos frères pour des lièvres et pour des perdrix. Ce serait encore une belle chose entre nous de voir nos femmes multiplier le nombre de nos enfants pendant que nous allons en guerre contre nos ennemis, des médecins empoisonner nos familles et des joueurs perdre les castors de leur chasse. Ce sont pourtant des bagatelles en France qui ne sont point sujettes aux belles lois des Français. En vérité, il y a bien de l'aveuglement dans l'esprit de ceux qui nous connaissent et ne nous imitent pas.
Lahontan. Tout beau, mon cher ami, tu vas trop vite, crois-moi. Tes connaissances sont si bornées, comme je t'ai déjà dit, que la portée de ton esprit n'envisage que l'apparence des choses. Si tu voulais entendre raison, tu concevrais d'abord que nous n'agissons que sur de bons principes pour le maintien de la société. Il faut que tu saches que les lois condamnent les gens qui tombent dans les cas que tu viens de citer, sans en excepter aucun. Premièrement, les lois défendent aux paysans de tuer ni lièvre, ni perdrix, surtout aux environs de Paris, parce qu'ils en dépeupleraient le royaume s'il leur était permis de chasser.
Ces gens-là ont reçu de leur seigneur les terres dont ils jouissent, et ceux-ci se sont réservés la chasse comme leur maître. Les paysans leur font un vol et contreviennent en même temps à la défense établie par la loi. De même, ceux qui transportent du sel, parce que c'est un droit qui appartient directement au roi, à l'égard des femmes et des joueurs dont tu viens de parler, il faut que tu croies qu'on les renferme dans des prisons et dans des couvents d'où ni les uns ni les autres ne sortent jamais. Pour ce qui est des médecins, il ne serait pas juste de les maltraiter car de 100 malades, ils n'en tuent pas 2. Ils font ce qu'ils peuvent pour nous guérir. Il faut bien que les vieillards et les gens usés finissent. Néanmoins, quoique nous ayons tous affaire de ces docteurs, s'ils étaient prouvés qu'ils eussent fait mourir quelqu'un par ignorance ou par malice, les lois ne les épargneraient pas plus que les autres et les condamneraient à des prisons perpétuelles et peut-être à quelque chose de pis. Adario. Il faudrait bien des prisons si ces lois étaient observées. Mais je vois bien que tu ne dis pas tout et que tu serais fâché de pousser la chose plus loin de peur de trouver mes raisons sans réplique. Venons maintenant à ces deux hommes qui se sauvèrent l'année passée à Québec pour n'être pas brûlés en France et disons, en examinant le crime dont on les accuse, qu'il y a de bien sottes lois en Europe. Eh bien, ces deux Français sont des prétendus magiciens jongleurs. Note. Ce sont les chamans guérisseurs dont parlent tous les chroniqueurs. Alors que Lahontan les qualifie de charlatans dans ses mémoires, la majorité des auteurs les prennent au sérieux, comme les jésuites Paul le Jeune en Nouvelle-France ou Pierre Pelleprat aux Antilles. Fin de la note. On les accuse d'avoir jonglé. Quel mal ont-ils fait? Ces pauvres gens ont peut-être eu quelques maladies qui leur a laissé cette folie, comme il arrive parmi nous. Dis-moi un peu, je te prie, quel mal font nos jongleurs? Ils s'enferment seuls dans une petite cabane lorsqu'on leur recommande quelques malades. Ils y chantent, ils crient, ils dansent, ils disent cent extravagances. Ensuite, ils font connaître aux parents du malade qu'il faut faire un festin pour consoler le malade, soit de viande, soit de poisson, soit le goût de ce jongleur, qui n'est qu'un médecin imaginaire, dont l'esprit est troublé par l'accident de quelque fièvre chaude qu'il a essuyée. Tu vois bien que nous nous raillons d'eux en leur absence et que nous connaissons leur fourberie. Tu sais encore qu'ils sont comme des insensés dans leurs actions, comme dans leurs paroles, qu'ils ne vont ni à la chasse ni à la guerre. Pourquoi brûlerions-nous les pauvres gens qui parmi vous ont le même malheur?
Lahontan. Il y a bien de la différence de nos jongleurs aux vôtres, car ceux parmi nous qui le sont parlent avec le méchant esprit, font des festins avec lui toutes les nuits. Ils empêchent un mari de caresser sa femme par leur sortilège. Ils corrompent aussi les filles sages et vertueuses par un charme qu'ils mettent dans ce qu'elles doivent boire ou manger. Ils empoisonnent les bestiaux. Ils font périr les biens de la terre, mourir les hommes en langueur, blesser les femmes grosses, et cent autres mots que je ne te raconte pas. Ces gens-là s'appellent enchanteurs et sorciers. Mais il y en a d'autres encore plus méchants, ce sont les magiciens. Ils ont des conversations avec le méchant esprit. Ils le font voir à ceux qui en ont la curiosité sous telle figure qu'ils veulent. Ils ont des secrets pour gagner au jeu et enrichir ceux à qui ils les donnent. Ils devinent ce qui doit arriver. Ils ont le pouvoir de se métamorphoser en toutes sortes d'animaux et de figures les plus horribles. Ils vont en certaines maisons faire des hurlements affreux mêlés de cris et de plaintes effroyables. Ils y paraissent tous en feu, plus haut que des arbres, traînant des chaînes aux pieds, portant des serpents dans la main. Enfin, ils épouvantent tellement les gens qu'on est obligé d'aller chercher les prêtres pour les exorciser, croyant que ce sont des âmes qui viennent du purgatoire en ce monde, y demander quelques messes dont elles ont besoin pour aller jouir de la vue de Dieu. Il ne faut donc pas que tu t'étonnes si on les fait brûler sans rémission, selon les lois dont nous parlons.
Adario.
Quoi ? Serait-il possible que tu croies ces bagatelles ? Il faut assurément que tu railles. pour voir ce que je répondrai. C'est apparemment de ces contes que j'ai vus dans les fables d'Ésope, livre où les animaux parlent. Il y a ici des coureurs de bois qui les lisent tous les jours, et je me trompe fort si ce que tu viens de me raconter n'y est écrit. Car il faudrait être fou pour croire sérieusement que le méchant esprit, supposé qu'il soit vrai et qu'il y en ait un, tel que les jésuites me l'ont dépeint, eut le pouvoir de venir sur la terre. Si cela était, il y ferait assez de mal lui-même sans le faire faire à ses sorciers. Et s'il se communiquait à un homme, il se communiquerait bien à d'autres, et comme il y a plus de méchants hommes que de bons parmi vous, il n'y en a pas un qui ne voulût être sorcier. Alors tout serait perdu, le monde serait renversé, en un mot ce serait un désordre irrémédiable. Sais-tu bien, mon frère, que c'est faire tort au grand esprit de croire ces sottises? Car c'est l'accuser d'autoriser les méchancetés et d'être la cause directe de toutes celles que tu viens de raconter, en permettant à ce méchant esprit de sortir de l'enfer. Si le grand esprit est si bon que nous le savons, toi et moi, il serait plus croyable qu'il envoya de bonnes âmes sous d'agréables figures. Reprocher aux hommes leurs mauvaises actions et les inviter à l'amiable de pratiquer la vertu en leur faisant une peinture du bonheur des âmes qui sont heureuses dans le bon pays où elles sont, à l'égard de celles qui sont dans le purgatoire, si tant est qu'il y ait un tel lieu. Il me semble que le grand esprit n'a guère besoin d'être prié par des gens qui ont assez à faire de prier pour eux-mêmes, et qu'il pourrait bien leur donner la permission d'aller au ciel s'il leur accorde celle de venir sur la terre. Ainsi, mon cher frère, si tu me parles sérieusement de ces choses, je croirai que tu rêves ou que tu as perdu le sens. Il faut qu'il y ait quelque autre méchanceté dans l'accusation de ces deux jongleurs, ou bien vos lois et vos juges sont aussi fort déraisonnables. La conclusion que je tirerais de ces méchancetés, si elles étaient vraies, c'est que puisqu'on ne voit rien de semblable chez aucun peuple de Canada, il faut absolument que ce méchant esprit ait un pouvoir sur vous qu'il n'a pas sur nous. Cela étant, nous sommes donc de bonnes gens et vous, tout au contraire, pervers, malicieux et adonnés à toutes sortes de vices et de méchancetés. Mais finissons, je te prie, sur cette matière dont je ne veux entendre aucune réplique. Et dis-moi, à propos de loi, pourquoi elle souffre qu'on vende les filles pour l'argent à ceux qui veulent s'en servir? Pourquoi on permet certaines maisons publiques où les putains et les maquerelles s'y trouvent à toute heure pour toutes sortes de gens? Pourquoi on permet de porter l'épée aux uns pour tuer ceux à qui il est défendu d'en porter? Pourquoi permet-on encore de vendre du vin au-dessus de certaines quantités et dans lequel on met 1000 drogues qui ruinent la santé? Ne vois-tu pas les malheurs qui arrivent ici, comme à Québec, par les ivrognes? Tu me répondras, comme d'autres ont déjà fait, qu'il est permis au cabaretier de vendre le plus de marchandises qu'il peut pour gagner sa vie, que celui qui boit doit se conduire lui-même et se modérer sur toute chose. Mais je te prouverai que cela est impossible, parce qu'on a perdu la raison avant qu'on puisse s'en apercevoir, ou du moins elle demeure si affaiblie qu'on ne connaît plus ce qu'on doit faire. Pourquoi ne défend-on pas aussi les jeux excessifs qui traînent 1000 maux après eux? Les pères ruinent leur famille, comme je t'ai déjà dit. Les enfants volent leurs pères ou les endettent. Les filles et les femmes se vendent quand elles ont perdu leur argent, après avoir consommé leurs meubles et leurs habits. Déjà viennent les disputes, des meurtres, des inimitiés et des haines irréconciliables. Voilà, mon frère, des défenses inutiles chez les Hurons, mais qu'on devrait bien faire dans le pays des Français, ainsi peu à peu réformant les abus que l'intérêt a introduits parmi vous. J'espérerais que vous pourriez un jour vivre sans loi, comme nous faisons. Lahontan. Je t'ai déjà dit une fois qu'on châtiait les joueurs. On en use de même envers les maquereaux et les courtisanes, surtout envers les cabaretiers, lorsqu'il arrive du désordre chez eux. La différence qu'il y a, c'est que nos villes sont si grandes et si peuplées qu'il n'est pas facile aux juges de découvrir les méchancetés qu'on y fait. Mais cela n'empêche pas que les lois ne les défendent. Et on fait tout ce qu'on peut pour remédier à ces maux. En un mot, on travaille avec tant de soin et d'application à détruire les mauvaises coutumes, à établir le bel ordre partout, à punir le vice, à récompenser le mérite, que, pour peu que tu voulusses te défaire de ces mauvais préjugés et considérer à fond l'excellence de nos lois, tu serais obligé d'avouer que les Français sont gens équitables, judicieux et savants, qui suivent mieux que vous autres les véritables règles de la justice et de la raison.
Adario.
Je voudrais bien avoir occasion de le croire avant que de mourir, car j'aime naturellement les bons Français. Mais j'appréhende bien de n'avoir pas cette consolation. Il faut donc que vos juges commencent les premiers à suivre les lois, pour donner exemple aux autres. Qu'ils cessent d'opprimer les veuves, les orphelins et les misérables. Qu'ils ne fassent pas languir les procès des plaideurs, qui font des voyages de 100 lieues. En un mot, qu'ils jugent les causes de la même manière que le grand esprit les jugera. Que vos lois diminuent les tributs et les impositions que les pauvres gens sont obligés de payer, pendant que les riches de tous les États ne payent rien à proportion des biens qu'ils possèdent. Il faut encore que vous défendiez aux coureurs de bois d'apporter de l'eau de vie dans nos villages pour arrêter le cours des ivrogneries qui s'y font. Alors j'espérerai que peu à peu, vous vous perfectionnerez, que l'égalité de biens pourra venir peu à peu et qu'à la fin, vous détesterez cet intérêt qui cause tous les maux qu'on voit en Europe. Ainsi, n'ayant ni tien ni mien, vous vivrez dans la même félicité des Hurons. C'en est assez pour aujourd'hui. Voilà mon esclave qui vient m'avertir qu'on m'attend au village. Adieu, mon cher frère. Jusqu'à demain.